Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Pour ce 74e épisode, j'ai échangé avec Anne-Laure, qui est maman de 5 enfants instruits en famille. Elle s'est formée à la pédagogie Montessori pour accompagner ses enfants et accompagne aujourd'hui des parents qui font le choix de l'école à la maison ou des parents qui scolarisent leurs enfants mais qui souhaitent tout de même les accompagner. Elle est dans une... Ce que j'aime bien avec Anne-Laure, c'est qu'elle est dans cette démarche de formation continue. Donc après s'être présentée, nous avons abordé le sujet des enfants au potentiel. Je lui ai posé des questions comme « Quelles sont les caractéristiques des enfants au potentiel ?» Quels sont les bénéfices pour un enfant HP de baigner dans un environnement Montessori? On a parlé de profils laminaires, de profils complexes. Je laisse ma place à ma conversation avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Sabine.
Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler des enfants au potentiel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez, vous laisser l'occasion de vous présenter. Donc voilà, nous dire qui vous êtes et quel est votre lien avec Montessori.
Alors en fait, ma passion pour la pédagogie Montessori, elle est née quand j'étais en maternelle. En fait, j'ai eu la chance d'être une élève Montessori. L'école dans laquelle j'étais avait des classes multiniveau Montessori et puis des classes classiques. Et j'ai fait toute ma scolarité de maternelle et quasiment toute ma scolarité de primaire dans des classes Montessori. Donc c'était simplement quelque chose qui faisait partie de mon parcours. Et lorsqu'on a eu des enfants, notre premier enfant, on s'est posé évidemment la question de l'école et on avait la chance d'avoir une école Montessori pas très loin de chez nous. Donc on a tenté l'expérience. Moi j'en garde un excellent souvenir. Et effectivement, notre aîné s'y est extraordinairement épanoui. Il allait à l'école en courant, il allait mettre ses chaussons en courant, il était ravi. Et ça nous a conforté dans ce choix-là, sauf que je suis femme de militaire et que... forcément, on déménage beaucoup. Donc, on a dû quitter cet endroit-là. Il n'a pu rester qu'un an dans cette école. Et ensuite, on est parti à Toulon, où il n'y avait pas encore d'école Montessori à l'époque. À ce moment-là, je me suis dit qu'on allait créer une école. Je me suis formée pour. Et en attendant, on faisait l'instruction en famille. Donc, l'école à la maison, comme on l'appelle souvent. Et j'avais ce projet donc, de fonder une école. Malheureusement, on a très vite appris qu'on allait repartir. Donc, ça ne valait plus le coup de créer une école pour un an ou deux ans et puis de tout laisser en plan et de repartir ailleurs. Mais moi, en attendant, je m'étais formée. On avait découvert l'instruction en famille, la liberté que ça a apporté, le bonheur de passer tous ces moments ensemble. Et donc, on a continué dans l'instruction en famille jusqu'à aujourd'hui. Et là, on vient de finir notre 8e année d'instruction en famille Montessori.
D'accord. Et vous avez un enfant. 5 enfants.
Oui.
D'accord. Okay. Donc, de quel âge à quel âge?
De 11 ans pour l'aîné à 20 mois pour le petit dernier.
D'accord. Oui, donc...
Donc, ce qui impose d'avoir une ambiance nido, une ambiance communauté enfantine, une ambiance maison des enfants et une école élémentaire. Ça fait beaucoup.
Donc, vous avez beaucoup d'espace dans votre maison.
Bon, on s'est développé petit à petit. On a commencé par une étagère et une petite table dans un coin d'une chambre. Et puis, bon, là, on a ce qu'on appelle notre salle de classe, qui est plus grande pour accueillir tous ces niveaux différents avec 5 enfants. Mais ça s'est fait petit à petit. Ouais. Et puis, j'ai jamais cessé de me former. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis formée à la source, en 3-6 et en 6-12. Et puis, j'ai continué à me former. Je suis formée en 0-3 ans avec Nacita. Je me suis formée une nouvelle fois en 6-12 chez En Terre d'Enfance. Je me suis formée avec une Néerlandaise, avec une Australienne, avec des Américaines à distance. Et je trouve ça formidable. Tous les ans, je continue à me former en mode formation continue. Et je trouve ça formidable de découvrir tous les angles différents qu'apportent les éducateurs Montessori de ces différents pays. Je trouve que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on propose uniquement en France.
Et vous parlez anglais couramment? J'imagine que c'est en anglais, les formations?
Oui. En fait, j'ai été traductrice-interprète pendant 6 ans. Donc voilà, l'anglais pose pas de problème. Et puis en 2016, j'ai décidé de créer les Montessori 7. Parce que dès mes premières formations à la source, donc en présentiel, je regrettais vraiment le fait de devoir sacrifier mes week-ends, m'éloigner de mes enfants pendant les week-ends, y compris quand j'étais enceinte, que j'allaitais. Enfin, c'était quand même très compliqué d'organiser tout ça. Tout ça pour aller me former pour eux. C'est un petit peu paradoxal de se dire, je vais perdre du temps avec eux pour eux, au final. Et je ne comprenais pas, je me disais, mais on est quand même dans un monde où on fait des vidéos, on peut mettre des vidéos en ligne, pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Et ça n'existait, pour ainsi dire, pas à l'époque. Il y avait une formation à distance, mais il n'y avait pas très peu de vidéos. Et en 2000, donc après avoir pratiqué moi-même pendant longtemps, avoir fait des ateliers, etc., en 2016, j'ai créé les Montessori 7 et j'ai commencé à faire des formations en ligne à la pédagogie Montessori.
D'accord, donc depuis 2016.
Voilà.
Et on entend souvent dire voilà, que c'est difficile de se former en Montessori en ligne parce qu'il faut manipuler le matériel. Donc, si les auditeurs se disent ça, qu'est-ce que vous avez à leur répondre?
Alors, c'est amusant parce que j'ai eu cette conversation il y a un mois, je pense, avec Christelle de chez 1-2-3 Montessori, qui fabrique du matériel et qui vend du matériel Montessori. Et elle avait un peu le même réflexe. Et puis... Enfin, elle, c'était pas ça qui lui posait le plus de problème. Elle avait compris d'elle-même que, de toute façon, les manipulations qu'on fait en stage, elles ne suffisent pas. Souvent, on a très peu de temps, d'ailleurs, pour manipuler en stage, sauf si on fait une formation à EMI et qu'on passe un an à manipuler. Donc, de toute façon, il faut manipuler. Alors, à l'école, si on est éducateur, à la maison, si on est parent éducateur comme moi. Donc, dès le départ, moi, je filme des présentations avec de vrais enfants. Et dès le départ, j'annonce la couleur que, oui, il ne suffit pas de regarder la vidéo. Si on veut faire cette présentation, il va falloir de toute façon se procurer le matériel, le fabriquer ou l'acheter, et s'entraîner. Mais ça se fait dans tous les cas, j'ai envie de dire. Et ce qu'apportent quelque part les formations en ligne, je dirais même plus que les formations en présentiel, c'est le suivi. Souvent dans les formations en présentiel, les formateurs nous disent qu'on peut les appeler, mais on sent qu'on dérange. Alors que là... Là, moi, par exemple, j'ai un accompagnement pour des familles qui font du co-schooling ou de l'IEF. On a des séances de questions-réponses deux fois par mois. Enfin, on a tout un suivi qui se met en place. Et c'est beaucoup plus motivant, je trouve. Et puis, on a toujours cette tranquillité de se dire, voilà, si j'ai une question, je peux la poser.
Le gros avantage, je trouve, de la formation en ligne, c'est que c'est pas un temps court, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, oui. 4 semaines, et paf, c'est fini. Et on sait très bien que pour consolider les choses, pour ne pas oublier, de nouvelles questions vont arriver dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, de pouvoir avoir ce contact encore avec le formateur ou les autres participants sur le long terme, que ça soit pas juste à court terme.
Ah, tout à fait. Et en plus, dans le monde de l'instruction en famille ou du co-schooling, souvent on a un enfant qui est dans la tranche d'âge pour laquelle on se forme, parfois deux, et donc on voit la vidéo de présentation pour lui, on s'entraîne pour lui, et puis on oublie. Et on peut la revoir cette vidéo et se réentraîner pour l'enfant suivant quand il en est là. Donc c'est oui, tout à fait. Je trouve que c'est particulièrement adapté quand on a des familles comme ça. Mais bon, pour les professeurs aussi, en fait, ils peuvent s'entraîner autant de fois que nécessaire.
Oui. Donc depuis 2016, vous avez créé les Montessori 7 et vous accompagnez principalement des parents qui font l'école à la maison?
Alors, école à la maison ou co-schooling, c'est-à-dire des parents qui accompagnent les apprentissages scolaires de leurs enfants. Leur enfant est scolarisé, mais que ce soit pour les accompagner dans les devoirs ou pour leur ouvrir un peu l'esprit à d'autres choses. Parce que c'est vrai qu'en primaire, on fait pas grand-chose en histoire, géo, sciences naturelles, alors qu'on fait beaucoup de choses dans la pédagogie Montessori. Mais c'est surtout pour un public familial. J'ai aussi des assistantes maternelles, pas mal, qui propose ça du coup aux enfants qu'elle garde. Mais c'est surtout la mise en application de la pédagogie Montessori dans un environnement familial. Il n'y a pas du tout les mêmes contraintes qu'une école. On n'a pas les mêmes contraintes de place, de budget, de temps. Donc forcément, il faut s'adapter.
D'accord. Pourquoi vous vous êtes intéressée aux enfants au potentiel ? Quel a été le point de départ ?
Alors ça aussi, c'est parti de mon enfance, en fait, tout simplement. J'ai moi-même été testée et je suis moi-même à haut potentiel et je l'ai su quand j'avais 8 ans. Donc depuis que j'ai 8 ans, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, quelque chose sur lequel je me suis renseignée. Ma mère s'est pendant très longtemps occupée d'une association pour des familles d'enfants à haut potentiel. Donc ça a toujours fait partie de sujets de conversation à la maison, en famille. Et puis dans la famille... Les zèbres ne font pas des chats et on a d'autres zèbres, d'autres enfants à haut potentiel dans la famille, à un certain nombre, parmi mes neveux, n'ont pas été testés, mais probablement parmi nos enfants. Donc ça a continué de m'intéresser aussi pour eux derrière. Et puis ce qui est assez étonnant, je ne propose pas de formation spécifiquement pour des parents d'enfants à haut potentiel, mais... Étonnamment, parmi mes stagiaires, j'attire beaucoup de parents à haut potentiel ou de parents d'enfants à haut potentiel. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Enfin, ils ne représentent pas la majorité des parents, mais ils sont surreprésentés par rapport aux statistiques normales. Et je pense que ce n'est pas étonnant. Quand j'écris un article de blog, il fait entre 3000 et 5000 mots, ce qui est énorme pour un article de blog classique. Quand j'aborde un sujet, on va très très loin. Et je pense que ça parle justement beaucoup à des parents à haut potentiel. Donc concrètement, parmi les familles que j'accompagne, c'est une question qui se pose souvent. Et du coup, ça permet de tester différentes choses et de trouver les bonnes solutions pour ces enfants particulièrement.
Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop les caractéristiques des enfants au potentiel, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont leurs points forts, leurs points faibles ou leurs...
Voilà, il y a autant de types de haut potentiel que d'enfants à haut potentiel quelque part. Ça ne détermine pas à 100% l'identité d'un enfant, bien sûr que non. Mais il y a des choses qu'on retrouve chez tous. Il y a l'hypersensibilité, déjà. On peut être hypersensible sans être à haut potentiel, mais ça va. Quand on est à haut potentiel, on est aussi hypersensible. Donc là, je parle vraiment de sensibilité émotionnelle. Souvent, ce sont des enfants... Je parle d'enfants, mais évidemment, ça s'applique aussi bien aux adultes. Hein. Ce sont des enfants qui sont facilement en empathie avec les autres ou qui ressentent très fortement les émotions des autres, qui ressentent très fortement leurs propres émotions. Donc, ça peut provoquer des situations très explosives dans les cas de colère. Ils peuvent être extrêmement malheureux en cas de tristesse. Enfin, voilà, tout est amplifié. Et il y a aussi une hypersensibilité au niveau des sensations. Donc, on appelle ça l'hyperesthésie. C'est-à-dire que généralement, alors pas forcément tous les sens, mais certains sens sont souvent exacerbés. Et les enfants au potentiel peuvent être, par exemple, très sensibles à un bruit ambiant qui va les gêner, que personne d'autre ne va entendre. Par exemple, le minuscule vrombissement du ventilateur d'ordinateur qui est dans la pièce. Ou un petit bruit, ou le bruit de la machine à laver qui est pourtant à la cave, un étage plus bas, ces petits bruits-là peuvent les déranger. Donc là aussi, ça nécessite des adaptations. Et alors, tout le monde ne s'accorde pas là-dessus. On dit souvent que les enfants à haut potentiel ont une pensée arborescente au lieu d'une pensée linéaire. Ce qu'on entend par là, c'est qu'une pensée linéaire, c'est que je m'intéresse à quelque chose, je me pose une question, j'y réponds, et puis j'avance comme sur un chemin, sur une ligne droite. Et quand on parle de pensée arborescente, c'est plutôt que je me pose une question et ça donne naissance à deux autres questions qui donnent naissance en parallèle à quatre réponses différentes et on suit un arbre comme ça de questionnements, de pensées, de réflexions. Et ce modèle, il est contesté par les scientifiques, par les neuroscientifiques, parce qu'on n'en a pas de représentation au niveau des IRM. On ne voit pas ce phénomène quand on regarde le cerveau. Mais ça correspond quand même au vécu de l'immense majorité des personnes à haut potentiel. Donc, même si ce n'est pas forcément juste scientifiquement, c'est juste au niveau de l'expérience qu'en font les gens. Donc, ça donne naissance à un fourmillement d'idées Ils peuvent se disperser très facilement, ça c'est le danger. L'avantage, c'est qu'ils sont souvent curieux de tout. Ils ont envie d'apprendre, envie de comprendre. Ils peuvent avoir des difficultés sociales parce que les règles sociales peuvent paraître très arbitraires à un enfant à haut potentiel. Pourquoi ? Pourquoi on fait comme ça ? D'où ça vient ? Comme généralement, ce sont des conventions sociales, il n'y a pas forcément de raison très rationnelle. Et du coup, ils doivent souvent apprendre les comportements sociaux comme si c'était une matière, en quelque sorte. Des choses qui paraissent naturelles à la plupart des gens doivent être apprises par des enfants à potentiel. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres caractéristiques, mais les principales, je pense que c'est vraiment le... on dit souvent que les enfants à potentiel ne pensent pas plus vite, en réalité, mais ils pensent différemment des autres enfants. Il ne faut pas voir ça comme une rapidité. Ça entraîne une rapidité, mais ce n'est pas le point important. Il y a vraiment un mode de pensée qui est différent, c'est la première chose. L'hypersensibilité, l'hyperesthésie, et derrière des difficultés au niveau social.
Et au niveau plus scolaire, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous notez que ces enfants ont moins besoin de s'entraîner pour qu'une notion soit consolidée ?
Alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Ce sont des enfants qui ont généralement horreur de la répétition. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains prétendent que la pédagogie Montessori n'est pas du tout adaptée à eux. Et je me permets de ne pas être d'accord du tout, parce que personnellement, je me suis profondément épanouie là-dedans. Et je vois beaucoup d'enfants à potentiel pour qui c'est au contraire une pédagogie formidable. En fait, souvent, les enfants à potentiel disent « Non, mais c'est bon, là, j'ai compris. » Et donc, ils pensent que s'ils ont compris, c'est acquis et c'est maîtrisé. Ce qui n'est absolument pas le cas. S'ils se sont contentés de comprendre sans répéter, c'est dans leur mémoire de travail, aucun problème, mais ça n'est pas dans leur mémoire à long terme. Et donc, ils vont oublier et ça ne va pas suffire. L'apprentissage, justement, ne sera pas consolidé. En revanche, si on se contente, par exemple, de la pédagogie Montessori, de proposer l'activité telle qu'elle est prévue à la base et on s'attend à ce que l'enfant répète, effectivement, il ne va que très peu répéter. Certains enfants ne font l'activité qu'une fois et passent à autre chose. Donc, avec ces enfants-là, il faut vraiment jouer sur les extensions d'activité. On a une activité de base, mais derrière, on a plein de façons de réinvestir le travail différemment.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret ?
Oui, bien sûr. Par exemple, sur la fameuse tour rose Montessori, bon, ça c'est un exemple qu'on voit souvent. La première présentation consiste à monter la tour rose en mettant les cubes au centre, les uns par rapport aux autres. On centre le cube par rapport au cube qui est en dessous. Il y a une deuxième présentation qui consiste à monter la tour rose en l'alignant suivant un angle. En gros, comme si on la mettait contre le mur et contre un meuble et on la monte en l'alignant suivant l'angle. Ensuite, cette tour rose, on peut en faire plein de choses. On peut la monter à l'horizontale, c'est-à-dire tous les cubes posés au sol dans l'ordre, et on peut faire le parallèle avec l'escalier marron. On peut aussi s'amuser à faire des formes géométriques avec les 10 cubes de la tour rose. On peut commencer par proposer des cartes à l'enfant qui donne des modèles pour qu'il ait une idée de ce qu'on peut faire avec les cubes de la tour rose. Et l'enfant peut inventer ses propres modèles en combinant éventuellement l'escalier marron et la tour rose. Mais on peut aussi reprendre des carrés roses et les assembler les uns sur les autres, les carrés de 10 sur 10, de 9 sur 9, de 8 sur 8, et de former une tour rose plate. On peut faire plein de choses. Avec le cabinet de géométrie ou de botanique, on peut évidemment travailler les noms des formes, les noms des différents types de feuilles, mais derrière, on peut en tracer les contours, on peut les colorier, on peut les peindre avec toutes les techniques qu'on peut imaginer, on peut poinçonner les contours, donc on travaille à la fois à ce moment-là la pince de l'écriture et la forme elle-même géométrique ou la forme de la feuille, on peut aussi en tracer le contour sur du tissu et le broder. Enfin, on peut faire... tout ce qu'on peut imaginer, et ça fera répéter l'enfant à haut potentiel sans qu'il s'en rende compte. Il a besoin de nouveautés.
Mais là, l'exemple que j'avais en tête, c'était l'exemple de ma fille. Quand elle avait 4 ans, 4-5 ans, très vite, je lui ai montré du matériel de mathématiques. Et pour l'addition, la soustraction, enfin toutes les opérations, très très vite, elle a compris en fait la technique opératoire. Et elle n'a pas eu besoin d'être dans la répétition, vous voyez ? Donc, comment ça se passe pour des enfants plus grands? Après, si on prend l'exemple des mathématiques, ces enfants qui ont compris la technique et qui n'ont pas besoin de répéter.
Alors, effectivement, sur les opérations, à chaque fois, on passe par la banque, donc les perles dorées, puis les timbres, puis le boulier, bon, il y a quelques nuances. C'est vrai que les enfants à potentiel ne vont pas avoir besoin de beaucoup répéter chaque étape. Mais le travail sur la banque, ils vont le faire sur le système décimal, ils vont le faire sur l'addition, sur la soustraction, sur la multiplication, sur la division. Donc la représentation des nombres sous la forme du système hiérarchique avec des cubes de 1000, avec des plaques de 100, ils l'auront intégré parce qu'ils l'auront répété sur les différentes opérations. Le travail sur les timbres, même chose, ils l'auront refait 5 fois. Donc ils l'auront intégré aussi d'une autre façon. Du coup, et en parallèle, le travail sur l'addition, ils l'auront fait quand même à travers les perles dorées, les timbres, le boulier, la table à points, le travail sur papier. Donc tout ça, ça fait qu'ils ont répété, c'est pas vraiment la technique, mais vraiment le concept et la manipulation de l'addition, et ils ont répété ces différentes représentations des nombres. Donc ça ira. Fonctionné. Là, il n'y a même pas besoin d'extension parce que ça se fait tout seul. La difficulté derrière, ça peut être pour l'apprentissage des tables d'addition, des tables de multiplication, etc. Ça reste pénible, mais je trouve que l'approche montessorienne est sans doute la moins pénible de toutes, parce que si on veut faire apprendre quelque chose par cœur à un enfant à haut potentiel, là, souvent, on se heurte à un mur. Apprendre les choses bêtement par cœur, ça ne correspond pas à leur fonctionnement. Alors que dans la pédagogie Montessori, en fait, on refait construire à l'enfant les tables d'addition, de multiplication, etc., de différentes façons, par lui-même. Donc, il n'apprend pas par cœur, mais à force de manipuler, etc., il s'imprègne quand même de ces opérations-là.
Et alors, quels sont pour tous les enfants, mais surtout pour les enfants HP, quels seraient pour vous les bénéfices d'être scolarisés en Montessori?
Je pense que le plus important pour les enfants à haut potentiel, c'est que ça leur permet d'avancer à leur rythme et à un rythme différent dans différents domaines. Parce qu'en fait, on a deux profils d'enfants à haut potentiel. Avant, on parlait de profil homogène et profil hétérogène. Aujourd'hui, on parle plus de ce qu'on appelle les profils laminaires et profils complexes. Un profil laminaire, c'est l'enfant à haut potentiel un peu cliché, celui qu'on s'imagine, qui réussit très bien à l'école, qui est bon dans toutes les matières, qui est bon élève, travailleur, intéressé, curieux de tout, etc. En fait, c'est un enfant au potentiel qui a un profil d'intelligence homogène entre à peu près toutes les compétences, aussi bien les compétences de langage que les compétences logico-calcul, etc., etc. À côté de ça, on a des profils plus hétérogènes qui correspondraient plus à l'image du haut potentiel qu'on a parfois dans certains films, du style Sherlock Holmes, le génie incompris, le surdoué des maths mais qui ne sait rien faire d'autre, qui est nul en orthographe, etc. En fait, ce sont des enfants au potentiel qui ont un profil hétérogène. Donc le surdoué des maths, c'est quelqu'un au potentiel qui a une intelligence au niveau de la logique et du calcul qui est très développée, mais pas forcément au niveau du verbal, ou en tout cas pas au même niveau. Et forcément, pour ces profils-là, c'est plus compliqué, surtout à l'école. Parce que d'un côté, je prends l'exemple du génie en maths, entre guillemets, on aimerait le faire passer dans la classe supérieure pour les maths, mais peut-être qu'il rame pour l'écriture. Surtout que justement, souvent avec ses enfants, la lecture, ça va très vite. L'écriture au sens, je compose des mots, donc comme ce qu'on peut faire avec l'alphabet mobile Montessori, ça va très vite, mais écrire avec un crayon sur une feuille, c'est un geste qui demande de la précision et souvent, ça leur demande beaucoup plus d'efforts. Donc, ces enfants se retrouvent en décalage dans leurs compétences. Et dans la pédagogie Montessori, ils vont pouvoir continuer à avancer sur les maths et prendre leur temps, autant de temps que nécessaire sur l'écriture. Et ils s'y retrouveront à la fin. Donc, je trouve que ça permet vraiment une grande souplesse là-dessus. Et du coup, même les enfants à profil complexe qui, généralement, échouent à l'école, souvent, on s'imagine que les enfants à haut potentiel ont tout pour réussir, mais, alors, ça n'est pas une statistique officielle, mais on dit souvent qu'en moyenne, on a un tiers des enfants qui réussissent très bien à l'école, un tiers des enfants à haut potentiel qui s'en sort médiocrement, et un tiers des enfants à haut potentiel qui est en échec scolaire. Et donc, au moins, ça permet à ces enfants à profil complexe malgré tout, pouvoir s'épanouir dans un environnement scolaire.
Mais c'est une force quand même de la pédagogie Montessori, même sans parler des enfants HP. Voilà, pour tous les enfants, le fait de pouvoir apprendre à son rythme, c'est l'idéal.
Ah, tout à fait. C'est pour ça que ça s'applique à tous les enfants. On dit parfois qu'il n'y a pas de pédagogie universelle, mais pour moi, la pédagogie Montessori est universelle parce qu'elle va venir s'adapter à chaque enfant. Ouais. C'est parce qu'elle est totalement individuelle que ça va fonctionner avec tous, à condition de faire les adaptations nécessaires pour chacun.
Oui, sa force, c'est justement de s'adapter aux besoins de l'enfant. Donc, tous les enfants, voilà, pour tous les enfants, ça marche, quoi. Enfin, c'est l'idéal. Oui. D'accord.
Et puis, il y a plein d'autres avantages. Comme je disais souvent, ces enfants-là ont besoin de comprendre. Ils n'aiment pas apprendre une technique opératoire pour le plaisir d'apprendre la technique opératoire. Là, tout le matériel est fait pour leur permettre de comprendre. On leur donne une raison à chacun des gestes qu'on leur demande de faire. Donc ça va vraiment, vraiment répondre à leurs besoins. Et puis, je parlais des difficultés parfois sociales de certains enfants à haut potentiel. Justement, je trouve que la pédagogie Montessori est plus respectueuse parce qu'entre 3 et 6 ans, on travaille au niveau individuel, on développe ses propres compétences. Et ensuite, en 6-12, on commence à faire du travail par petits groupes, des groupes librement choisis. Enfin, on respecte l'enfant et on lui apprend petit à petit à développer ses compétences sociales sans le brusquer, le forcer à faire en même temps que 25 ou 30 autres élèves exactement la même chose. Et je trouve que c'est à la fois plus respectueux et plus porteur. Ça fonctionne mieux. Simplement derrière.
Et ça, je trouve que c'est une grosse méconnaissance de l'école traditionnelle. Enfin, c'est comme si on ne connaissait pas les plans de développement. Parce que dans les écoles traditionnelles, en maternelle, on va leur demander de travailler en groupe. Et puis après, en élémentaire, on va les laisser travailler seuls. Alors que ça devrait être l'inverse, quoi.
Mais oui, tout à fait. Mmh. Et puis, je trouve qu'il y a un dernier danger, je trouve, dans le système classique qui est évité dans la pédagogie Montessori. Souvent avec des profils laminaires, mais pas seulement. Comme je disais, les enfants au potentiel, ils sont hypersensibles. Et souvent, on voit qu'ils travaillent pour faire plaisir à leur prof. Ils ont besoin d'admirer leur prof, d'avoir une relation affective avec lui pour travailler correctement. Et le problème, c'est que ces enfants-là, quand il n'y a plus de prof à qui faire plaisir, on se met à faire plaisir à ses parents, on se met à faire plaisir à son employeur, au risque d'oublier ses propres besoins. Et donc, on a ou bien des adultes qui ne savent pas du tout respecter leurs propres besoins, ou bien des adultes qui, à un moment donné, n'accrochent plus avec leurs professeurs et décrochent totalement du système scolaire. Et on voit ça souvent avec des filles à l'adolescence, où la volonté de faire plaisir aux professeurs commence à être supplantée par la volonté de faire plaisir à l'entourage. Alors, je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'on observe davantage chez les filles que les garçons. Souvent, les garçons sont davantage dans la rébellion et en échec scolaire total au niveau du collège-lycée. Les filles, souvent, s'adaptent mieux, peut-être parce que c'est ce qu'on attend d'elles. Hein, et en revanche, à un moment donné, peuvent avoir une crise monumentale, avec parfois des risques de troubles alimentaires, des risques de suicide, des dépressions très graves. Souvent, il y a vraiment une crise au moment de l'adolescence, au collège, au lycée, éventuellement dans les études supérieures. Et justement, dans la pédagogie Montessori, on ne travaille pas pour faire plaisir à l'éducateur. L'éducateur, il est juste là pour proposer des choses, mais l'enfant travaille pour lui. Il ne travaille pas non plus pour ses parents. On ne montre pas son travail à ses parents. Donc, par les encouragements plutôt que par les compliments, on arrive à développer, même chez ces enfants à haut potentiel qui seraient un petit peu sur-empathiques par rapport à leur entourage, on arrive à développer chez eux l'envie d'apprendre pour eux-mêmes et de travailler pour eux-mêmes.
Le fait qu'il n'y ait pas de récompense extrinsèque, ça change tout. Voilà.
Ça change.
Le plaisir, il est pour soi. Oh, j'ai réussi, on sécrète de la dopamine, on est heureux, on a envie d'aller plus loin.
Voilà. Oui. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de comparaison avec les autres élèves, il n'y a pas non plus le risque de se prendre la grosse tête et de se dire je suis plus intelligent que tous les autres enfants de ma classe. C'est beaucoup plus sain.
Et au tout début, vous avez dit que vous vous formiez aussi dans d'autres pays anglophones pour élargir un peu, sûrement vos connaissances sur la pédagogie Montessori. Mmh. Qu'est-ce que les autres pays, ou qu'avez-vous appris des autres pays, des autres éducateurs dans les pays anglophones ?
Alors, la pédagogie Montessori en France est quand même très dominée par l'AMI, l'Association Montessori Internationale. Et je trouve qu'il y a déjà une première richesse dans un pays comme les États-Unis, c'est qu'il y a deux associations fidèles à la pensée de Maria Montessori, qui sont l'AMI et l'AMS. Alors, il est question de fusion entre les deux, mais il y a quand même ces deux structures différentes. Et je trouve que ça permet d'aller explorer des choses un petit peu différentes et de partir dans des directions différentes. Et comme Maria Montessori, d'expérimenter, d'observer, d'analyser et de corriger. Et puis de recommencer. Donc, je trouve que ça permet davantage d'ouvrir un peu les horizons. Et puis, on a de belles choses dans différents domaines. Par exemple, chez En Terre d'Enfance, où je me suis formée en 6-12, je m'y suis surtout reformée pour l'éducation cosmique. Parce que Marie de Saint-Germain, qui est la formatrice, s'est formée en Allemagne. Elle est allemande d'origine. Et en Allemagne, ils ont, je dirais, davantage développé l'éducation cosmique que ce qu'on fait en France. Il y a de très belles choses qui se font à l'AMI en France, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en Allemagne. Donc tout ça, ça s'enrichit. L'état d'esprit reste le même, la vision de l'enfant reste la même. Je dirais que c'est plus sur les modalités pratiques qu'il y a des expériences différentes. Et du coup, c'est assez intéressant, en particulier sur des sujets un petit peu, je ne vais pas dire tendus ni contestés, mais parfois un peu source de division, comme la question des plans de travail en 6-12 ans, pas de plan de travail, l'organisation du travail, du planning, etc. Mmh. Ça peut changer. Et puis, on a alors un petit reproche que je ferais à une certaine tendance américaine, c'est la volonté de vouloir modifier toute la salle de classe pour chaque période de fête différente. Mmh. C'est-à-dire que si on est au moment de Noël, on va mettre des petits sapins et des Pères Noël partout. Au lieu de transvaser des pois chiches, on va transvaser des petites billes Père Noël. On va prendre avec la pince à sucre des petits sapins en feutrine, etc. Pour la Saint-Valentin, il y aura des cœurs partout. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'était une expérience intéressante à tenter. Mais je trouve que ça pousse un petit peu trop les enfants à être accros à la nouveauté et de n'aller vers un matériel que s'il a été renouvelé et actualisé en fonction de la période de l'année. Mais au moins, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées, qui sont essayées, et certaines fonctionnent, d'autres moins.
D'accord. Avant que je vous pose mes trois questions habituelles, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose sur les enfants au potentiel ?
Souvent, le plus gros reproche que des parents d'enfants au potentiel font aux écoles Montessori, c'est que leur enfant ne travaille pas. Et ils font quitter l'école à leur enfant en disant « mais là, il n'apprend rien, il ne fait pas de travail ». Alors, déjà, forcément, l'enfant ne revient pas à la maison avec des cahiers bien remplis d'exercices. Ça, c'est pour tous les enfants. Et c'est vrai qu'avec les enfants à potentiel, il y a ce rejet de la répétition. Il y a aussi, parfois, ça peut être lié à une forte anxiété, ça peut être lié à une peur de l'échec. Et on a des enfants qui passent beaucoup de temps à ne rien faire. Alors, je n'aime pas dire qu'un enfant ne fait rien, un enfant ne fait jamais rien. Mais un enfant peut rester observé pendant des semaines sans prendre le moindre matériel sur les étagères. Un enfant peut aussi prendre un matériel, le faire une fois, le ranger et ne plus jamais y toucher. Ce que je trouve dommage, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se dire que du coup, la pédagogie Montessori n'est pas faite pour les enfants surdoués. C'est quelque chose qu'on entend souvent. En fait, les enfants au potentiel peuvent très bien s'épanouir dans la pédagogie Montessori, mais il faut effectivement ou bien les guérir de leur peur de l'échec. Ça peut avoir été entretenu dès l'enfance par l'environnement familial. Hein. Je jette la pierre à personne, mais quand on a un enfant qui réussit beaucoup de choses, quand il fait une erreur, on la met souvent en exergue alors que ça n'est qu'une erreur, et ce n'est pas grave. Et ces enfants sont tellement habitués à réussir qu'une erreur devient un échec. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur donner l'exemple, à leur montrer que nous, adultes, on échoue, et qu'on se corrige, et qu'on apprend de nouvelles choses, et que tout va bien. Les confronter eux-mêmes à l'échec petit à petit, enfin, à l'erreur et pas à l'échec. Et derrière, l'éducateur va avoir un rôle vraiment fondamental pour guider l'enfant vers ce qui va l'intéresser. C'est dans le décalogue de Maria Montessori, hein, il faut sans cesse représenter à l'enfant les activités auxquelles il n'a pas adhéré au départ. Et il faut partir des centres d'intérêt de l'enfant pour essayer de lui faire travailler les compétences. Et ça tombe bien, les enfants à haut potentiel, souvent, ont des centres d'intérêt très spécifiques, très marqués, par lesquels ils sont passionnés. Alors, il y a souvent la mythologie, il y a souvent les dinosaures. Ça peut être des animaux en particulier, ça peut être tout un tas de choses. Mais souvent, les centres d'intérêt, ils n'en manquent pas. Donc, on peut partir de là et construire des activités qui vont utiliser ce centre d'intérêt. Par exemple, un enfant qui va avoir du mal avec son geste d'écriture, s'il est passionné par les dinosaures, allons-y pour les noms de dinosaures. On va lui sortir plein d'images de dinosaures et on va lui demander d'écrire, de se faire un cahier avec les dinosaures. On va lui proposer plein de choses à partir de là. Et il va travailler la compétence à partir de ses centres d'intérêt. Mais ça demande effectivement un peu d'investissement de la part de l'éducateur pour que ça fonctionne. Mais une fois qu'on fait ça, ça fonctionne très très bien.
Merci Anne-Laure. On va terminer avec les trois questions habituelles. Est-ce que vous auriez une citation à partager?
Alors, c'est une citation que j'ai connue en anglais pendant très longtemps et j'avais du mal à retrouver la traduction en français. En fait, c'est dans L'éducation et la paix de Maria Montessori. Et elle dit « L'enfant se développant harmonieusement et l'adulte s'améliorant à ses côtés, ne trouvons-nous pas là une image très émouvante et tout à fait motivante ?» Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'elle n'oublie pas que l'adulte n'a pas fini d'apprendre et que nous aussi, même si on a un diplôme, même si on a toutes sortes de choses, nous aussi, on est en train d'apprendre et de s'améliorer à côté de nos enfants, et je trouve ça formidable.
Vous avez parlé de formation continue au début et je partage tout à fait votre point de vue. Moi, j'ai besoin, moi, chaque année, évidemment, de me former sur de nouveaux sujets, et même chaque jour, en fait, chaque jour, de lire, d'apprendre, enfin, c'est vraiment un besoin. Donc,
ah oui, absolument.
Et quand on accompagne les enfants, je pense que c'est l'idéal parce qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. On est toujours en chemin.
C'est ça. Et puis quelque part, c'est ce qui est passionnant avec la pédagogie, c'est que la pédagogie recouvre tous les domaines. Il s'agit d'enseigner tout. Donc on peut très bien s'intéresser plus spécifiquement à la biologie pendant quelques temps, à la conjugaison, à tout un tas de choses. Et on a énormément à apprendre dans tous les domaines.
Et est-ce que vous auriez un livre à partager avec les auditeurs?
Alors, je pense que probablement tous les livres de Maria Montessori ont déjà dû être mentionnés un jour ou l'autre. Je me dis que vu le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, s'il y a des auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur le haut potentiel, de manière générale, j'aime beaucoup les livres d'Ariel Ada et de Jeanne Thiot-Fachin qui sont un peu la base des livres de base, je dirais, sur le haut potentiel. Mais j'ai particulièrement aimé, plus récemment, les livres de Monique de Kermadec, dont L'adulte surdoué, parce qu'on parle peu ou pas forcément suffisamment en profondeur de l'adulte surdoué. Donc L'adulte surdoué de Monique de Kermadec, je le trouve vraiment très bien fait. Et elle s'est aussi intéressée aux très jeunes enfants surdoués de 6 mois à 6 ans, où là aussi on sait moins de choses sur cet enfant. Et je me permets d'en ajouter un dernier, c'est de Christelle Petit-Collin. Je pense trop vite, un des deux. J'adhère pas forcément à tout ce qu'elle dit, mais de la même façon, il y a des choses sur le haut potentiel que je n'ai trouvées que dans ses livres. Oui, c'est « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ?»
D'accord, bah merci beaucoup pour ces trois livres, hein, c'est ça, vous en avez cité trois,
du
je
coup,
crois.
Trois, oui.
Oui, c'est ça, c'est dur d'en citer qu'un.
En plus, ça dépend de ce à quoi on s'intéresse. Voilà, oui. L'adulte surdoué, c'est sur l'adulte surdoué.
Voilà.
Si on s'intéresse aux enfants, et... on parle plutôt sur celui de l'enfant.
Et est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager pour terminer l'épisode?
Alors, j'aurais aimé proposer un coup de cœur, ça aurait été plus positif, mais je pense qu'en ce moment, c'est plutôt un coup de gueule. Je ne sais pas si tous les auditeurs seront au courant, mais il y a un projet de loi actuellement qui veut interdire l'instruction en famille et la faire passer à un régime de dérogation, alors qu'à l'heure actuelle, c'est un régime de déclaration. Et concrètement, l'État n'accorderait des dérogations aux familles que sur certains critères qui sont très limités, et il prévoit très clairement de limiter l'instruction en famille à des cas comme un enfant malade, une famille itinérante, etc. Et malheureusement, on est dans la deuxième navette parlementaire. Il y a eu une première navette parlementaire. La loi, le Sénat et l'Assemblée ne se sont pas mis d'accord. Il y a eu une commission paritaire. Maintenant, on est dans la deuxième navette et l'Assemblée vient de rétablir cet article 21 dans la loi rétablissant, la loi confortant les principes républicains. Et donc, l'avenir de l'instruction en famille s'annonce malheureusement assez noir, parce que même si le Sénat supprime à nouveau cet article, la loi repassera à l'Assemblée, et il y a forte chance qu'elle remette cet article dans la loi. Et donc, le seul recours à l'heure actuelle, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, c'est pour moi un gigantesque coup de gueule, parce que c'est la plus grande attaque contre la liberté d'instruction qu'on ait faite depuis longtemps, peut-être depuis 1984, et la loi contre l'école libre, le projet de loi contre l'école libre. Donc, c'est malheureux d'en arriver là. Et pour moi, quand on attaque cette liberté-là, la liberté du mode d'éducation qu'on souhaite pour ses enfants, c'est, je vais peut-être sembler un peu extrême à certains, mais pour moi, c'est le premier pas vers un État totalitaire. Si l'État contrôle totalement l'éducation, sans aucune autre possibilité, puisque les écoles privées sont sous contrat avec l'État, les écoles privées hors contrat sont inspectées et ont des contraintes de plus en plus lourdes, elles aussi. Si on n'a plus cette liberté d'instruction en famille, je trouve qu'on en arrive à une situation vraiment dangereuse.
Je partage votre coup de gueule et je me demandais justement tout à l'heure où c'en était, parce que je n'avais pas suivi l'actualité depuis quelques semaines et je ne savais pas qu'on en était là.
Oui, c'est très récent là, cette nouvelle adoption à l'Assemblée, ça date d'il y a quelques jours.
D'accord. Bon, c'est bien de partager des coups de gueule aussi de temps en temps, il faut que les auditeurs soient au courant, parce qu'il y a quand même énormément de familles en France qui profitent, voilà, qui ont fait ce choix-là, et je partage votre avis, pour moi, on doit avoir le choix, en fait, le choix de l'instruction pour nos enfants.
C'est ça. Je ne jette absolument pas la pierre aux familles qui mettent leurs enfants à l'école, c'est un très bon choix aussi. Tout le monde n'est pas fait pour faire l'instruction en famille, c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles, mais il faut qu'on ait le choix.
C'est ça, il faut qu'on garde ce choix. Et ben merci beaucoup Anne-Laure.
Merci Céline.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !